afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un second passage dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5e et au verset 25e. Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Revenons à l'Évangile selon Jean, au chapitre 11e. Et au verset 5. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et un dernier passage dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20e. Christ m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Nous avons tous remarqué que dans les quatre passages que nous avons lus, il est question de l'amour de Dieu, de l'amour du Seigneur Jésus. Dans le premier passage, nous avons l'amour qui embrasse le monde entier. Dans le second passage, nous avons l'amour pour l'assemblée de Dieu. Dans le troisième, cet amour se concentre sur la famille chrétienne. Et enfin, le dernier passage parle de l'amour dont nous sommes tous personnellement les objets. Il s'agit donc de quatre cercles, si j'ose employer ce terme, qui, depuis le plus grand jusqu'au dernier, manifestent l'amour de Dieu, chacun d'eux sous un angle bien intéressant. Du premier passage, le réformateur Luther disait qu'il est l'Évangile en miniature. Nous pouvons remarquer que dans ce passage de Jean 3,16, tout est grand. Dieu a tant aimé le monde. C'est un immense amour. Personne n'est excepté. Le monde ici, évidemment, sous-entend les habitants de ce monde, tous, sans exception, sont les objets de l'amour divin. Et il y a là quelque chose de bienfaisant, ce qui place devant nous immédiatement la réalité du fait que Dieu n'a personne destiné à la perdition. Mais Dieu veut que tous soient sauvés. C'est là sa volonté. Que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. N'oublions pas la fin du passage. Viennent à la connaissance de la vérité. Être sauvé est une faveur que Dieu accorde à tout pécheur qui reçoit Jésus pour son sauveur. Venir à la connaissance de la vérité est un désir de Dieu, mais on peut remarquer qu'il est rarement réalisé véritablement dans sa plénitude. L'amour nous est présenté aussi quant à la vérité. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, nous avons le jugement qui tombera sur les hommes dans un temps futur, ce qui peut déjà avoir lieu maintenant dans une mesure, un jugement qui a pour cause le manque d'amour de la vérité. Et quel est ce jugement ? C'est que Dieu donnera une énergie d'erreur pour croire le mensonge. Ce jugement me paraît terrible, qu'une capacité de croire le mensonge soit donnée de Dieu, en résultat de ne pas avoir eu l'amour de la vérité. Un de nos bien-aimés devanciers a écrit que c'était le dernier amour que l'on constate dans le cœur, aimer véritablement la vérité. Aimer le Seigneur, lui-même a dit « Je suis la vérité ». On ne peut pas aimer le Seigneur sans aimer la vérité et inversement. Mais cet amour de la vérité devrait exister dans tous nos cœurs. Et si tel était le cas, que de choses seraient différentes. Que de situations difficiles auraient été évitées, et que de progrès spirituels. Aimer la vérité serait le point de départ de bénédiction assurée, bénédiction élevée, bénédiction dont ferait le profit de tous ceux avec lesquels nous avons contact. Combien c'est précieux de pouvoir compter sur quelqu'un, que votre oui soit oui, et que votre nom soit non. Aimer la vérité, c'est quelque chose de grand. Celui qui aime la vérité, qui s'y attache, ne peut qu'en retirer un bénéfice personnel et normalement en faire bénéficier les autres. Et surtout et par-dessus tout, c'est un honneur pour le Seigneur. C'est un amour que nous devons désirer, rechercher, le cultiver. Et en ceci, nous ferons certainement un grand progrès, car nous savons que le mensonge vient de l'ennemi, il en est le père. Alors aimer la vérité, c'est véritablement réaliser le côté divin. Le côté divin. Si nous parlons de l'amour de Dieu pour le monde entier, c'est donc un immense amour et une immense sphère dans laquelle cet amour se répand, se manifeste par toutes sortes de faits. Dieu appelle les pécheurs à la repentance. Personne n'est exclu. Un brigand, juste avant d'expirer, peut se repentir et obtenir la promesse du Seigneur. Nous connaissons cela. Aimer la vérité, c'est véritablement marcher dans le chemin selon Dieu. Le roi David était apprécié de Dieu surtout parce qu'il était droit. « Droit comme mon serviteur David », disait l'Éternel. Cette appréciation devrait faire envie. Et je pense que nous pouvons tous avoir un petit examen de conscience et essayer de mesurer dans quelle proportion notre amour se développe quant à la vérité. La vérité comprend tout le cycle de la révélation, mais c'est le caractère même du Seigneur. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le plus grand don que Dieu pouvait faire. Nous avons dit que dans ce passage, tout est grand. Un grand don, le don du Seigneur Jésus. Dieu ne pouvait pas nous donner davantage. Aussi la parole nous parle de ce don comme étant inexprimable. Comment exprimer avec un langage humain la valeur, l'étendue, la profondeur, la hauteur que comporte le fait que Dieu a donné son Fils unique. Et il est ajouté afin que quiconque croit en lui c'est l'appel sans limite, un grand appel, quiconque, personne n'est exclu, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il y a le mot périr dans cet appel, dans ce passage de Jean 3,16, qui est d'une solennité particulière. Périr, c'est quelque chose qui devrait faire peur à tous ceux qui entendent cette parole. Périr, c'est pour toujours. Celui qui refuse, qui désobéit au Fils, périt. C'est la perdition, et c'est éternel. Et on peut dire, ce qui n'est peut-être pas très français, que c'est une grande perdition. Elle est totale. Mais il est ajouté, mais qu'il est la vie éternelle. Voilà quelque chose qui est aussi grand, divinement grand. Nous pouvons donc bien dire que dans ce passage de Jean 3,16, tout est grand, parce que c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, la position qui nous convient, celle que nous devons avoir devant lui, c'est d'écouter. Écouter. Dans la parole de Dieu, écouter joue un grand rôle. Dans l'Ancien Testament, et tout particulièrement dans certains livres, nous trouvons cette phrase qui revient souvent concernant Israël, « Vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté. » C'est une attitude très grave, car quand Dieu parle, il convient d'écouter. C'est lui donner sa place, c'est prendre la nôtre. L'Épître aux Hébreux débute par ces mots. Dieu a parlé. Il a parlé. Si toute l'humanité n'écoute pas, nous pouvons bien en déduire, sans se tromper, que c'est une perte. Plus qu'une perte, ce peut être la perdition éternelle. Quand Dieu parle, c'est toujours solennel. Mais quand il nous parle du Fils, et les Écritures rendent témoignage de lui, cette parole, c'est le témoignage du Fils. Il est donc de toute importance, même pour nous croyants, d'écouter. Comme Marie, assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Elle en a retiré un grand bénéfice, elle en a été instruite, elle a été une occasion de joie pour son Sauveur, elle a été honorée par ses paroles. Après lui avoir offert le parfum, le Seigneur a déclaré qu'on parlerait dans le monde entier de ce qu'elle avait fait. Le début de toute cette appréciation du Seigneur lui-même quant à Marie, c'était qu'elle avait écouté. Écouter est une grande chose, et nous trouvons dans les Écritures des exemples de croyants qui savaient écouter. Dans notre vie moderne, précipitée, dont les journées sont remplies de mille choses, sachons trouver les moments nécessaires pour écouter. Pour écouter, il faut s'arrêter. Il ne faut pas être distrait, ou le cœur rempli de toutes les choses de la terre ou de quoi que ce soit qui nous distrait de Christ. Remarquons que l'ennemi fait usage d'une arme extrêmement dangereuse, subtile, et qu'il emploie sous toutes les formes imaginables. Et cette arme, c'est simplement nous distraire de Christ. Il n'emploiera pas forcément des choses mauvaises. Il peut même en employer des bonnes en elles-mêmes. Mais si, par ce moyen, il arrive à nous distraire de Christ, nous pouvons être sûrs qu'il a gagné la partie. Son but, c'est de nous distraire de Christ. Occuper d'autre chose que de lui. C'est son grand but. Et nous avons à y prendre garde. Même les bonnes œuvres peuvent prendre dans nos cœurs la place du Seigneur. Elles n'auront de valeur que dans la mesure où elles sont faites pour lui. Autrement dit, le Seigneur doit avoir la première place dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers. Et de toute manière, cela dépend de ce que nous écoutions sa parole, que nous recherchions la communion avec lui et que nous réalisions tout son amour. Nous serons beaucoup plus réjouis, affermis et élevés en réalisant l'amour dont il nous aime qu'en soupesant l'amour que nous avons pour lui. Dieu a tant aimé, il est la source, il est amour. Donc tout est grand dans ce premier passage que nous avons lu, et je désire être court pour laisser de la place. Nous passons au second passage. Christ a tant aimé l'assemblée, il a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Dans ce passage où il est question de l'assemblée, remarquons qu'il y est sous-entendu le sacrifice. Quelqu'un qui a reconnu, qui a accepté l'œuvre du calvaire, toute âme qui passe par cette expérience, conversion, nouvelle naissance, devient un membre du corps de Christ, devient un membre de l'Église, de l'Assemblée. Et c'est là que son œuvre est associée à sa personne. Et nous pouvons dire que nous pouvons nous rappeler sans cesse la mesure de son amour quand nous considérons son œuvre. Ce n'est pas pour rien qu'elle est appelée dans le psaume 111 glorieuse et magnifique, l'œuvre de Christ. Et nous avons cet amour pour l'assemblée qui est un amour particulier. Dans le même chapitre 5 des Éphésiens, nous en avons une expression touchante pour nos cœurs quand il est dit qu'il l'a nourri et qu'il l'a chéri. C'est un amour particulier. L'amour de Dieu est immense, il est insondable, que ce soit pour le monde entier, pour les pécheurs perdus, que ce soit pour l'assemblée dont cet amour est particulier, il est toujours insondable, surpassant toute connaissance. L'assemblée de Dieu est certainement sur la terre ce qu'il y a de plus grand pour Dieu. La chose la plus précieuse pour son cœur. Et souvent, lorsque nous sommes réunis, par exemple, pour le louer, pour l'adorer, le premier jour de la semaine, ne pouvons-nous pas penser qu'une telle réunion a une telle élévation lorsque le culte est réalisé dans son vrai caractère, que le Seigneur en est honoré? Christ a tant aimé, il a aimé l'assemblée, il s'est livré lui-même pour elle. Et cet amour est invariable, il aime l'assemblée aujourd'hui autant que le jour où il est mort sur la croix pour sauver les pécheurs et constituer ce peuple d'adorateurs. Je passe au troisième passage. Nous avons lu dans le 11e chapitre de Jean, où nous avons ce fait que Jésus aimait Marthe et Marie et Lazare, une famille chrétienne. Si nous considérons dans les Écritures diverses pages qui parlent de la famille chrétienne soit en rapport avec l'amour dont elle est l'objet de la part du Seigneur, soit avec considérer quant aux exhortations qu'il adresse à cette famille, donnant à chacun sa place, que nous la considérions dans les bénédictions qui découlent de lui appartenir, ou dans les épreuves qu'il peut dispenser lorsqu'il devient nécessaire, sous tous les aspects. La famille chrétienne est une merveille. Une merveille. Qu'y a-t-il de plus beau qu'une famille où les parents attachés au Seigneur, comme nous l'avons remarqué cet après-midi, prennent le temps, car il faut savoir prendre le temps, prennent le temps de parler du Seigneur à leurs enfants. Il y aura bien dans la journée un moment où l'on pourra lire ensemble la parole, où l'on pourra méditer cette parole devant les enfants et pour eux. Il en découlera certainement une bénédiction, comme nous l'avons vu dans divers passages cet après-midi. Une famille chrétienne, je n'hésite pas à le dire, c'est une merveille. Quand nous considérons les devoirs domestiques que le Seigneur a distribués, l'organisation de la famille de sa part, nous pouvons dire que c'est une merveille. Mais il faut que chacun garde sa place, que le père soit conscient de ses responsabilités, que son épouse le soit également, aux soins domestiques, élever ses enfants. C'est à elle qu'incombe, je pense, la première éducation, puisqu'elle est à la maison, pour éduquer les petits, comme nous l'avons vu aussi cet après-midi. Que ce soit les enfants qui obéissent à leurs parents, quand tout est réglementé selon la parole, quand tout est réalisé selon le cœur de Dieu, cette famille n'était pas une merveille. Une merveille, un témoignage dans ce monde. Mais si toutes les familles qui se rattachent au rassemblement réalisent cela, l'atmosphère pieuse de la famille sera un rayon de chaleur dans l'assemblée. Il y en aura un écho, un résultat, on peut dire, extrêmement valable pour le rassemblement. Il se compose de familles réunies. Aussi, soyons toujours plus conscients de ce que nous apportons dans le rassemblement. Il arrive trop souvent qu'on entende des réflexions que l'on ne reçoit pas, ou pas assez, ou pas ce que l'on voudrait. Mais la question se veut se poser à l'inverse. Qu'est-ce que nous apportons? Qu'apportons-nous dans le rassemblement? Comme assemblée, nous avons le droit d'examiner la chose, et comme croyant chacun individuellement se poser la question « qu'est-ce que j'apporte ?» Recevoir est une chose, mais la conscience d'apporter en est une autre. Les deux sont nécessaires, les deux sont utiles, à leur place. Et le dernier passage que nous avons lu dans les Galates, où l'apôtre dit « Christ m'a aimé » et s'est livré lui-même pour moi. Il est nécessaire, indispensable, que nous ayons une vie personnelle avec le Seigneur. La communion doit se réaliser personnellement. Cette recherche, comme le roi David, dont nous avons lu quelques versets après-midi dans le psaume 27, ce besoin du cœur de vivre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la communion avec lui, et réaliser ceci déjà premièrement, que si j'avais été seul pécheur, pour cela il fallait la même œuvre de la rédemption pour me sauver. Si nous avons tous personnellement cette conviction, combien cela nous attache au Seigneur. Ses souffrances, sa mort, sa résurrection sont nécessaires seulement pour moi. Chaque croyant peut le dire. L'apôtre Paul l'a dit. Et si nous réalisons cela, nous comprendrons mieux et nous serons plus sensibles aux souffrances, à la mort du Seigneur et à tout ce qui en découle. Et combien cela est propre à nous faire composer quelque chose pour l'exprimer le premier jour de la semaine en particulier, mais continuellement. Car il est dit dans le chapitre 13 des Hébreux, « Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Christ m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » C'est le plus petit cercle, mais ce n'est pas le moins important. De lui découlent les précédents, et nous pourrions certainement commencer ces remarques par le plus petit cercle. Qu'il aille en se rétrécissant, l'amour de Dieu reste toujours le même. Il est invariable, il est éternel, parce qu'il est divin. Que cet amour remplisse nos cœurs, premièrement pour faire de nous des adorateurs, et ensuite pour faire de nous des serviteurs, des servantes, et que nous réalisions chacun pour nous-mêmes ce besoin de rechercher sa face, d'en jouir, comme le roi David l'exprime par exemple au psaume 63, réalisant dès le matin que le monde est un désert, et le rechercher dès le point du jour. Et ensuite, nous avons l'âme rassasiée, et ensuite l'âme s'attache. Les étapes de l'amour dans le cœur du croyant pour le Seigneur, le rechercher, il y a rassasiement de joie et le cœur s'attache à lui, s'attache à son corps qui est l'assemblée et nous nous attacherons toujours plus les uns aux autres.
Voyons lire quelques versets dans le deuxième livre des Chroniques. Deuxième livre des Chroniques au chapitre 24. Joas était âgé de 7 ans lorsqu'il commença de régner. Il régna 40 ans à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Tsibia de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tous les jours de Jéhoiada le sacrificateur. Et Jéhoiada prit 2 femmes pour Joas, et il engendra des fils et des filles. Il arriva après cela que Joas eut à cœur de restaurer la maison de l'Éternel. Au verset 13, ceux qui faisaient l'ouvrage travaillèrent. L'œuvre de restauration se fit par leurs moyens. Ils rétablirent la maison de Dieu en son état et la consolidèrent. Verset 15. Et Jéhoiada devint vieux et rassasié de jours, et il mourut. Il était âgé de 130 ans quand il mourut. Et on l'enterra dans la ville de David avec les rois, car il avait fait du bien en Israël et pour Dieu et pour sa maison. Et après la mort de Jéhoiada, les chefs de Juda vinrent et s'inclinèrent devant le roi. Alors le roi les écouta. Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et servirent les Achères et les idoles. Et il y eut de la colère contre Juda et contre Jérusalem, parce qu'ils s'étaient rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux pour les ramener à lui des prophètes qui témoignèrent contre eux, mais ils n'écoutèrent point. Verset 22, et le roi Joas ne se souvint pas de la bonté dont Jéhoïada, père Zacharie, avait usé envers lui, et il tua ses fils. Et à la fin, au verset 25, quand ils l'eurent quitté, il l'avait laissé dans de grandes maladies. Ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils de Jéhoïada, le sacrificateur. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. Et on l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans le sépulcre des rois. Il nous a été parlé cet après-midi et tout à l'heure de la responsabilité des parents d'élever leurs enfants pour le Seigneur, de les enseigner de bonne heure, de les conduire dans le bon chemin, et combien tout cela est important. Mais voilà la vie d'un homme, très brièvement résumé, Joas, pour lequel on a fait beaucoup. Petit bébé, il a été sauvé du massacre par sa tante, la femme du souverain sacrificateur. Pendant quelques années, il a été caché dans la maison de Dieu, dans le temple. Puis, à l'âge de 7 ans, il est devenu roi, nous connaissons l'histoire. Et le sacrificateur Jéhoïada, qui lui servait de père, s'est beaucoup occupé de lui. Joas, fils qui est droit aux yeux de l'Éternel tous les jours, dit Jéhoïada le sacrificateur. Jéhoïada va même pour prendre 2 femmes pour Joas. Il engendra des fils et des filles. On peut penser que Jéhoïada, agissant comme un père, puisque Joas n'avait plus de père, a tout fait ce qu'il pouvait dans son temps, dans son époque, dans la dépendance de Dieu, a tout fait pour ce petit Joas, et pour Joas qui a grandi. Et on voit que Joas a eu à cœur de restaurer la maison de l'Éternel. Il y a tout le récit dans les versets que nous n'avons pas lus, mais encouragé par Joas, on s'est mis à l'œuvre, on a restauré le temple, on a restauré le culte, on a réparé la maison de l'Éternel, ceux qui faisaient l'ouvrage travaillèrent à l'œuvre de restauration. Et voilà un homme dont on peut se dire, Joas, eh bien les fruits de son éducation se montrent. Il a été élevé soigneusement dans la crainte de Dieu. Il règne avec sagesse, il a à cœur tout spécialement la maison de l'Éternel. Et voilà que Jéhoïada devient vieux. Il meurt. Il est enseveli avec les rois, car il avait fait du bien en Israël, et pour Dieu, et pour sa maison. Et maintenant, Joas va être mis à l'épreuve. Et c'est le jour de la responsabilité. Et c'est ce que nous voudrions simplement souligner. Les parents ont eu à cœur d'élever des enfants pour le Seigneur, de les instruire, de les mener dans la maison de Dieu. Et les enfants ont grandi, et ils ont eu, semblait-il, leur joie dans la maison de Dieu au milieu des croyants. Puis vient un moment, ici c'est la mort de Jéhoïada, autrefois c'est autre chose, une autre influence. Et tout ce qui paraissait si bien édifier s'effondre. Après la mort de Jéhoïada, les chefs de Juda vinrent, s'inclinèrent devant le roi. Alors le roi les écouta. Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et servirent les Achères et les idoles. Pourquoi ? Il y a là évidemment un mystère que nous ne pouvons pas clarifier, Dieu connaît les cœurs, mais tel que le récit nous est présenté, et tel que nous pouvons le voir autour de nous, il y a cette tragédie de parents qui ont tout fait pour leurs enfants spirituellement, et à un certain âge, et à un certain moment, à une certaine époque de la vie. Sous d'autres influences, les chefs de Judas viennent, ils flattent, ils s'inclinent devant Joas. Oh, on n'est plus dans les temps de Jehoiada, c'est passé, maintenant on va faire mieux. Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel et se tournèrent vers les idoles. Est-ce que nous voudrions simplement souligner, il y a d'un côté la responsabilité des parents, et combien, comme parents, nous avons pas demandé au Seigneur de nous être en aide, mais il y a la responsabilité des enfants et des jeunes qui grandissent, de ceux qui ont reçu et qui ont beaucoup reçu, et à celui à qui il a été beaucoup confié, il sera plus redemandé. Et qu'à un certain âge et à un certain moment et sous certaines influences, que ce soit au cours des études, que ce soit à cause d'un mariage malheureux ou d'autres circonstances, qui abandonnent ce qui avait paru pourtant être la vie de Dieu. Et sans doute ce n'était pas la vie. C'était la foi d'éducation, c'était la foi de tradition, c'était la foi qu'on a acceptée comme ça, sincèrement, mais sans qu'il y ait eu le travail de conscience, la repentance, le sentiment qu'on est perdu, qu'on a besoin du Sauveur et qu'on a besoin de ce Sauveur personnel dont on a bien parlé. Et alors, en quelques jours ou peut-être une année, nous ne savons pas, tout s'évanouit. On abandonne la maison de l'Éternel et Joas en est venu jusqu'à mettre à mort le fils de Jéhoiada, le prophète qui l'avertissait, les autres fils de Jéhoiada. Et il termine sa vie dans la défaite, dans la maladie, dans une mort douloureuse. Et il nous est dit, on ne l'enterra pas dans le sépulcre des rois. Une vie perdue, un témoignage mauvais, qui a déteint sur le peuple. Car quand des jeunes élevés dans des familles chrétiennes se détournent, souvent ils ne se détournent pas seuls, mais ils en entraînent d'autres avec eux. Responsabilité pour ceux qui ont beaucoup reçu, à qui il sera plus redemandé. Que le Seigneur nous amène tous à réfléchir. Et si des enfants de parents chrétiens pour lesquels ils ont se sont donné beaucoup de peine sont amenés au Seigneur et le suivent et le servent, eh bien que les parents se disent c'est une grâce. C'est la grâce de Dieu qui a opéré. C'est l'Esprit de Dieu qui a agi dans leur conscience et leur cœur. C'est une grâce. Les parents ne peuvent pas s'en glorifier. Mais il y a une responsabilité de ceux qui ont reçu, comme un Joas, pendant beaucoup d'années, de répondre à ce qu'ils ont reçu, non pas comme un devoir, mais comme une réalité vivante. Beaucoup reçu, plus redemandé.
Avoir beaucoup reçu, avoir été aimé, comme cela nous a été présenté, et répondre à cela par l'indifférence, l'hostilité, l'animosité, la révolte, c'est et le triste exemple que nous donne Joas. Cela a un nom, et un nom dans la parole. Cela s'appelle l'ingratitude. Dieu a aimé le monde. Tous les hommes, à des degrés divers peut-être, mais Dieu connaît et pèse et évalue exactement ce que sont les sentiments des hommes à son égard. Mais Dieu a commencé par aimer, comme Dieu a commencé par bénir, comme Dieu prodigue ses biens au monde. Comme aussi, alors, Dieu a ordonné à l'homme de l'aimer. Et il a aimé son peuple. Aujourd'hui, nous pouvons parler de l'amour de Dieu comme cela nous a été présenté à l'égard de l'Assemblée, à l'égard de ce qui porte le nom d'Église ici-bas. Non seulement la véritable Assemblée, mais tout ce qui porte le nom d'Église, avec toute la responsabilité que ça comporte. Les familles chrétiennes, chaque individu qui a reçu de Dieu, et particulièrement alors ceux qui possèdent la vie et qui sont appelés à la manifester. Comment répond-on à tant de bienfaits, tant d'aspects de l'amour de Dieu, de l'amour qui se donne, qui non seulement donne, mais qui se donne lui-même, l'amour qui trouve sa joie à donner, toujours plus heureux pour Dieu de donner que de recevoir. Mais comment les hommes, à des degrés divers, et comment nous, chrétiens, et comment chacun individuellement répond-il à cet amour ? À son peuple, Dieu pouvait dire, par le moyen des prophètes, vous avez été ingrats. Et il le dit de bien des manières, je rappellerai seulement le tout début des prophètes, avec le début d'Ésaïe, au verset 2 du premier chapitre du prophète Ésaïe. Écoutez, cieux, et prêtez l'oreille, terre, car l'Éternel a parlé. J'ai nourri et élevé des fils, et ils se sont rebellés contre moi. Voilà le peuple de Dieu. Le peuple qui avait eu les preuves de l'amour de Dieu. Et le peuple qui avait été, à qui il avait été enjoint d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée. Dieu avait droit à cet amour qu'il avait tant aimé. Ce peuple qu'il avait délivré, ce peuple qu'il avait amené à lui, toute l'histoire d'Israël peut passer devant nous. Et qu'en est-il ? J'ai élevé des fils. Joas se dresse contre la descendance de Jéhoïada. Il oublie tous les bienfaits de Jéhoïada. Mais Dieu parle comme un père. Comme un père qui a élevé des fils et ils sont rebellés contre moi. L'ingratitude d'Israël, comme l'ingratitude du monde envers le Dieu de Providence. Ingrat, sans piété. Oh, ce sont des traits qui ont marqué de tout temps la nature humaine, bien sûr, mais qui prennent tout leur relief dans les temps que nous sommes, où Dieu a multiplié les témoignages de son amour, le Dieu qui a envoyé son Fils pour sauver les hommes, le Dieu qui a tant aimé le monde. Ingrat. Eh bien, examinons-nous, chacun. Chacun selon la relation dans laquelle nous nous trouvons vis-à-vis de Dieu. Dans quelle mesure répondons-nous à l'amour dont nous avons été aimés, monde, assemblée, famille, individu, ça nous a été rappelé. Vous serions-nous des ingrats ? Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Ne laissons pas notre cœur naturel dire avec le monde « En quoi nous as-tu aimé ?» Le peuple d'Israël a murmuré contre celui qui était son sauveur. Le Seigneur Jésus avait dû dire, lorsqu'il était ici-bas, « Combien de fois, ô Jérusalem, combien de fois, mon peuple, j'ai voulu vous rassembler sous mes ailes comme... » vous rassemblez comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. L'ingratitude de son peuple, que chacun de nous se demande s'il n'est pas un ingrat.